Bonjour. Je vais rester un petit peu dans le thème que Sarah nous a proposé. Mais j'y arrive par un chemin quelque peu détourné. Savez-vous comment fonctionne un moteur électrique? Qui sait? Une personne, deux, deux et demi, deux, trois quarts, trois, quatre. C'est pas la majorité. Ah, cinq. Fayot, t'as vu les autres qui se levaient, donc... Pas grand monde, hein? Alors, savez-vous comment agit l'aspirine sur votre mal de tête? Oui, une personne, deux personnes. Savez-vous comment une poule fabrique un œuf? On l'entend d'ailleurs. Savez-vous comment une poule, c'est vraiment dans mes notes, je vous promets, hein? Savez-vous comment une poule, disais-je, fabrique un œuf avec sa forme parfaite? On méprise les poules, hein? Allez fabriquer un œuf et on en reparle. La vie quotidienne que nous menons est pleine de mystères. Savez-vous pourquoi les enfants apprennent si facilement une langue étrangère? C'est vexant, hein? Savez-vous à quoi ça sert de bâiller? D'éternuer, d'avoir la chair de poule, bon, pas trop en ce moment. Si, peut-être à cause des émotions. De trembler de froid, de transpirer. Ah, ça, oui. Savez-vous à quoi ça sert? Notre corps, notre propre corps, est plein de mystères. En tout cas pour moi. Vous avez certainement tout compris, mais pas moi. Savez-vous comment Dieu s'y prend pour écouter nos prières? Il y a des communautés où tout le monde prie en même temps. Vous avez peut-être fréquenté, tout le monde prie à voix haute et en même temps. Je ne sais pas comment Dieu fait pour tout entendre. Mais nous, on a prié une personne à la fois ce matin, d'accord. Mais une rue plus loin, il y a peut-être 10 personnes qui prient aussi. Et dans le monde entier, comment Dieu fait-il pour écouter toutes les prières? Si vous avez vu le film Bruce Tout-Puissant, vous avez vu cette petite scène où tout à coup, on voit des milliers de prières arriver en même temps à Dieu. Comment fait-il pour écouter tout ça? Surtout quand on ne dit rien, et qu'on est en prière, et qu'il entend, c'est ça le pire, ou le mieux. Comment fait-il pour nous voir tous? Pour s'intéresser à ce que nous ne montrons pas. Savez-vous comment il tiendra ses promesses à la fin des temps? Notre Dieu dépasse notre entendement. Alors le monde dans lequel on vit est plein de mystères, notre propre corps est plein de mystères, notre Dieu lui-même dépasse notre entendement. Vous devez vous dire, Jean-Marc a besoin de vacances. Mon sujet du jour est plein de mystères. La présence de Dieu en nous, la vie de l'Esprit-Saint en nous. Et le dernier chant que nous avons chanté, et je remercie Sarah de l'avoir choisi, parle de cela effectivement, l'habitation de l'Esprit de Dieu en nous. Cela fait des dizaines d'années que je suis chrétien et cela reste toujours à la fois un sujet de foi, que je ne remets pas en question, puis en même temps un grand mystère. Comment fait l'Esprit-Saint pour vivre en moi? Je reviens avec mes questions. Comment me laisse-t-il être moi-même tout en me transformant de l'intérieur? Comment agit-il sur mon caractère? Fait-il en sorte que je suis moins casse-pied que l'année dernière? Certains en doutent. Aucun texte de la Bible n'explique cela clairement, pas plus que bien d'autres sujets qui me laissent perplexe. J'ai donc choisi de parler d'un sujet que je ne maîtrise pas. Ben, je vais essayer quand même. Et je vais consulter l'apôtre Paul. De mon point de vue, Le texte, pas encore. Le texte qui, je te préviendrai. Pardon, j'ai oublié de te faire la petite mise au point qui manquait juste avant ma prédication. Le texte, disais-je, qui me semble majeur dans cette question de l'Esprit Saint en nous, c'est le chapitre 8 de la lettre de Paul aux Romains. Ben, je vais faire un peu de lecture ce matin. Ce chapitre 8, qu'on connaît moins peut-être que les chapitres 12 et 14 de la lettre de Paul aux Corinthiens, où il parle des charismes et des pneumatismes, ou des actions de l'esprit, ou des actions de des manifestations de la grâce. Ce chapitre 8 de la lettre aux Romains termine un développement doctrinal très fourni, très péchu, très foisonneux de toutes sortes d'idées, et puis il précède un développement sur Israël, et puis ensuite toute une série de mises au point. Et puis ce chapitre 8 termine par un texte magnifique que je vais vous lire, les versets 38 et 39, pardon. « J'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. » Et puis là, Paul se livre à un effet de style, hein, il dit « Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni les présents, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Avant ce couplet, Paul traite de notre sujet, la présence de l'Esprit en nous, de l'Esprit divin, de l'Esprit Saint ou du Saint-Esprit en nous. Je vais vous lire maintenant les versets 1 à 17, ça va faire long, accrochez-vous. Mais alors, ce qui a été affiché tout à l'heure, c'est un résumé. Donc, vous pouvez dormir pendant la lecture, comme ça vous pourrez profiter du résumé. Je sais que vous n'allez pas dormir quand même. Vous soupçonnerai-je ? Oui, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit-Saint qui donne la vie par Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dieu a accompli ce qui était impossible pour la loi de Moïse parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante. Pour enlever le péché, il l'a condamné au cœur. Pour enlever le péché, il l'a condamné au cœur même de la faiblesse humaine en envoyant son propre Fils vivre dans une condition semblable à celle de l'être humain pécheur. Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient accomplies en nous, qui vivons non plus selon les penchants humains, mais selon l'Esprit Saint. En effet, les personnes qui vivent selon les penchants humains se préoccupent de ce qui est humain, mais celles qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent de ce qui est spirituel. Les préoccupations humaines mènent à la mort, mais les préoccupations spirituelles mènent à la vie et à la paix. Ceux qui sont dominés par les préoccupations humaines sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Ils n'en sont même pas capables. Ceux qui s'inscrivent dans une logique humaine ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous ne vivez pas selon la logique humaine. Vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. La personne qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Si le Christ est en vous, votre corps reste tout de même destiné à la mort à cause du péché, mais le souffle de l'Esprit est vie en vous, parce que vous avez été rendu juste devant Dieu. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons des obligations, mais non envers la faiblesse humaine pour vivre selon sa logique, car si vous vivez selon cette logique, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous y vivrez. Toutes les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et qui vous remplisse encore de peur. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui vous permet de crier à Dieu « Abba, Père !» L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous sommes aussi ses héritiers. Oui, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Fin de la lecture. Quelques remarques tout d'abord. J'ai lu la Nouvelle Français Courant, la traduction de la Bible qui s'appelle Nouvelle Français Courant. Et elle a fait, vous avez remarqué, les habitués se sont dit, tiens, il n'y a pas ce fameux mot auquel la traduction Second nous a habitués, le mot chair. C'est remplacé par la logique humaine, la nature humaine, et c'est très opportunément remplacé de cette manière. La faiblesse humaine. La chair, en effet, peut signifier aujourd'hui quelque chose d'autre lié au corps. Les plaisirs de la chair, c'est soit les plaisirs sexuels, soit quand on mange une bonne choucroute, pour ceux qui l'aiment. Mais la chair, dans le vocabulaire de Paul, est beaucoup plus. C'est un mot beaucoup plus large. L'orgueil, c'est la chair, dans le sens où c'est la nature humaine qui se trompe. Etc. C'est un texte aussi qui reprend des éléments antécédents du développement de l'apôtre Paul. Paul ne se met pas tout à coup à parler du Saint-Esprit à cet endroit. Il a parlé de la nature humaine, la chair, il a déjà parlé de la loi de Moïse, et il en parle de nouveau ici, il dit que cette loi n'est pas arrivée à ses fins, parce qu'on n'est pas capable de la respecter. Il a déjà parlé du péché, il en parle d'ailleurs assez tôt dans sa lettre. Puis au sujet du Saint-Esprit, il en a déjà aussi parlé, il a brossé un tableau où il oppose l'action de l'Esprit et l'obéissance à la loi religieuse, en disant que l'action de l'Esprit est plus efficace, en quelque sorte, qu'une simple obéissance, qui d'ailleurs ne marche pas. Au chapitre 2, au chapitre 5, l'Esprit répand, c'est l'Esprit de Dieu qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs, Sarah, dans nos cœurs. Et puis au chapitre 7, il revient sur l'action intérieure de l'Esprit de Dieu. Mais je ne sais pas si j'aurai la réponse comment Dieu s'y prend pour agir dans mon cœur, dans ma vie. Je ne sais pas si j'aurai la réponse. On va au moins essayer de comprendre. Le chapitre 8, que je viens de commencer à lire, développe tous ces éléments, mais de manière plus profonde. Paul fait son maximum pour expliquer comment Dieu s'y prend dans nos cœurs. Il va opposer la nature humaine, la chair, la nature humaine et l'esprit divin. Avant, il opposait la tentative d'obéissance à la loi de Dieu et l'action de l'esprit de Dieu. Voilà, maintenant tu peux te réveiller déjà, Timothée. Il ne dormait pas, je suis mauvaise langue. Et je vous propose le résumé de ce que je viens de lire. Alors là, vous pouvez le lire. Je vais peut-être le lire moi aussi. C'est dit, notre nature humaine est faillible. Alors, nous laissons nos penchants humains qui nous mèneraient vers la mort, nous les laissons de côté, et nous sommes... Un résumé, il faut être court, donc j'évite les mots... Alors nous laissons nos penchants humains qui nous mèneraient vers la mort et nous sommes guidés par l'Esprit qui mène à la vie. Au fait, l'Esprit habite-t-il bien en vous? Si c'est le cas, votre corps, même mortel, survivra. C'est bien à l'Esprit que nous sommes redevables. Il nous guide et nous garde de nos faiblesses humaines. Mais il nous guide non comme des esclaves craintifs, mais comme des enfants de Dieu. Tu peux laisser afficher, puis je prends la télécommande après, pour la suite. Quelques commentaires. Paul lève le voile, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un aspect important de la vie chrétienne. C'est finalement le quotidien de notre vie dont Paul parle ici, sous cette approche de l'action du Saint-Esprit. Paul s'intéresse ici non pas à l'extraordinaire des charismes très visibles, mais à l'ordinaire le plus invisible que nous menons, vous et moi, chaque jour. Rien de spectaculaire, rien qui saute aux yeux, et pourtant, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. C'est là que l'action de l'Esprit de Dieu est le plus important, et la plus importante, la transformation de notre manière d'être, la transformation de notre être. Aux Corinthiens, il répondait à des questions sur les manifestations, le parler en langue, les guérisons, les prophéties et ce genre de choses, qui ont leur importance, que je ne rejette pas du tout. Mais ici, il me semble que Paul aborde la question de fond, parce qu'il aborde dans la lettre aux Romains la description la plus complète qu'il est donnée dans ses lettres de ce qu'est un chrétien ou une chrétienne. Et dans le cadre de cette description fondamentale, il met l'action du Saint-Esprit à la fin de sa description. La Pentecôte était certes une manifestation bruyante, visible et tellement puissante de l'Esprit de Dieu, quand les disciples se sont mis à parler des langues étrangères pour être compris, que Pierre, de tout timide et regroupé dans une pièce à Jérusalem, que Pierre vient hurler son discours devant tout Jérusalem. L'Esprit Saint agit en nous de différentes manières. Tantôt de manière très visible, comme au récit de la Pentecôte, et certainement à d'autres occasions plus proches de nous dans le temps, mais aussi, à certains moments, l'Esprit-Saint nous pousse à dire quelque chose dans notre quotidien. Ça vous arrivera peut-être demain. Tiens, mais pourquoi j'ai dit ça? Et comment ça se fait que j'ai réagi comme ça? L'Esprit-Saint te pousse. À d'autres moments, il nous conduit vers un certain comportement. Ou alors il vient raboter une pointe d'orgueil, il comble un creux d'estime de soi, il recolle des morceaux d'amour qui étaient cassés. Et tout cela en silence. Au fil de notre texte, nous voyons plusieurs de ces actions. Au verset 5, il est question de l'emprise. Je vais relire le verset. Dans la traduction Second, la Nouvelle Bible Second, il est « ceux qui vivent sous l'emprise de la chair ». Dans la Nouvelle Français Courant, il y a un exercice de traduction, un effort de traduction que je salue. En effet, les personnes qui vivent selon les penchants humains. Le mot « empire » auquel nos oreilles sont habituées fait penser à quelque chose de malsain. Vivre sous l'empire de la chair, ça veut dire que nous sommes en gros victimes de nos mauvais penchants. Alors, c'est le cas pour nous tous à plus d'une reprise, il faut que nous l'avouions, il faut le dire. Néanmoins, la traduction que je viens de vous lire, la Nouvelle Français Courant, est plus fidèle au texte grec. Et ceux qui vivent selon leur nature humaine, tout simplement. Il y a cette comparaison que Paul fait, alors non pas aux Romains, mais aux Éphésiens, il compare vivre selon l'esprit et être ivre. Alors, à midi, ne dites pas on va faire l'expérience pour comparer les deux, vous voyez, du style vous buvez un coup de trop pour être ivre, comme ça on va voir. Parce que justement, Paul il dit ne vous saoulez pas, mais soyez remplis de l'esprit. Comme si quelque part il y avait une ébriété spirituelle. Mais là où je pense que l'image touche à sa limite, c'est que l'ébriété spirituelle, enfin, quand on est sous, on ne maîtrise pas ses paroles ou ses actions. Vous avez déjà croisé des gens qui vous... Enfin, ça peut être un spectacle tout à fait charmant d'ailleurs, hein, des gens qui sont complètement ivres et qui vous racontent des trucs à vous tordre de rire. C'est pas ça que Paul veut dire en comparant l'ébriété avec l'action de l'esprit. Mais c'est d'être sous l'influence du Saint-Esprit. Vous avez un certain nombre d'entre nous sont parents. Et on a tous nos enfants qui vont à l'école, Hein, tous eu, ou on a encore nos enfants qui vont à l'école, ou qui vont aller à la rentrée, là, voilà, c'est la rentrée bientôt. Et alors, on a tous peur, les parents, que notre petit ange, qui lui est vraiment un enfant modèle, soit fréquente et des mauvaises fréquentations. Vous avez à l'école le petit du voisin qui dit des gros mots. C'est vrai que, en général, nos enfants apprennent les gros mots à l'école. Bon, dans le pire des cas, ils apprennent à la maison, hein. Mais bon, je dis ça, je vise personne. Le Saint-Esprit, c'est un peu comme si c'était un bon copain, un bon compagnon, qui va exercer une bonne influence. D'ailleurs, une des manières d'appeler le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, c'est celui qui est appelé, on pourrait traduire le compagnon. Celui qui est appelé auprès d'eux. Et on peut tout simplement dire, le Saint-Esprit est celui qui a une bonne influence sur nous. Il ne nous interdit pas d'être nous-mêmes, mais il a une bonne influence sur nous. Il fait de nous la meilleure version de nous-mêmes. Vous connaissez ce genre d'expression ? Et il n'y a pas que ça, il y a en plus une véritable action de Dieu de changement, mais il y a aussi cette idée qui m'aide à comprendre l'action de l'Esprit d'être sous une bonne influence, d'avoir choisi un bon compagnon de route. Premier effet du Saint-Esprit, le verset 11 le rappelle. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça veut dire une promesse de vie. Le Saint-Esprit est là. Les émotions qu'il crée en moi, tout cet effet que je viens de tenter de décrire, que je constate, sont pour moi une promesse de vie. Si je vois sourdre en moi des idées de paix, étonnamment, contre les circonstances, si je vois des inspirations, ou si je ressens des inspirations qui construisent, qui me poussent à louer Dieu, qui renouvellent mes relations aux autres, alors je peux me dire, l'Esprit Saint est là, et le Seigneur me promet la vie. Et cela me rassure face à la mort. Il n'y a pas que cela, il y a aussi un effort sur soi à faire. Ce serait trop facile, je l'entends parfois d'ailleurs, alors je vais le lire le verset 13, hein. Si vous vivez selon cette logique, donc la logique humaine, la chair, pour les vieilles traductions, vous allez mourir, mais si par l'Esprit Saint vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez. Là, ça me fait penser, vous savez, à ce texte de la Torah qui dit « Choisis la vie, tu as devant toi la mort et la vie ». Alors, présenté comme ça, on va choisir la vie, hein, c'est évident. Hein. Eh bien oui, mais alors, si tu choisis la vie, il faut vivre avec Dieu. Mais là, c'est un peu pareil. Choisis. Il y a un effort à faire. Imagine, à la sortie du culte, vous insultez quelqu'un. Bon, c'est pareil, ne faites pas... C'est une image, hein, ne faites pas... Vous insultez quelqu'un. Il dit, ah, mais c'est... Je suis désolé, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui n'a pas fait son boulot. Imaginez la tête de la personne qui... Oh, c'est trop facile. De la même manière qu'on a parfois cette manière très, très, très élégante de se disculper, hein. « Ah, j'ai pas fait exprès » ou « je suis comme ça ». Ah, c'est en fait un refus de prendre des responsabilités. Et le Saint-Esprit ne doit pas être un prétexte pour que nous ne prenions pas nos responsabilités. Ici, l'apôtre Paul parle du Saint-Esprit, mais il dit « tu as devant toi ». Un choix de comportement. Soit tu laisses ce compagnon qui t'influence, qui te tire vers le haut, faire son œuvre et être de bonne influence sur toi, soit tu ne l'écoutes pas et tu fais tes affaires comme tu l'entends, mais ça ne va pas être forcément très constructif. Troisième élément, une appartenance. Verset 15. L'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave, etc., etc. C'est l'esprit par lequel nous crions à Dieu, Papa, Père. C'est donc un sentiment d'appartenance. C'est quelque chose de très fort, à vrai dire. Faire partie du peuple de Dieu. Voilà, c'est une idée que l'Esprit de Dieu imprime dans notre cœur. Alors, je ne suis pas en train de vous parler d'un christianisme identitaire, du style « Ouais, nous, on est des chrétiens, on fait ceci et pas cela. » Il y a parfois cette forme de christianisme identitaire. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet de trop, ce n'est peut-être pas utile, mais je fais la différence entre un sentiment d'appartenance au peuple de Dieu qui traverse les frontières, qui traverse les cultures, qui traverse les âges et les générations, ce peuple de Dieu qui est tellement beau, et puis cette déclinaison locale, voire nationaliste, d'un certain christianisme identitaire qu'on voit dans notre pays, par exemple, et qu'on voit dans d'autres pays aussi que je ne saurais citer. Le sentiment d'appartenance, de pouvoir rencontrer quelqu'un et de lui dire « sœur, frère », et tout cela est une action du Saint-Esprit en nous, parce que nous appelons lui ou elle, comme moi, Dieu, notre Père, notre Papa. Psychologiquement, c'est important d'avoir un sentiment d'appartenance. Les psychologues, le psychologue que je ne suis pas, pourrait vous le dire. Cette conviction est un don de l'Esprit. C'est par l'Esprit que nous appelons Dieu, notre Père. Et on n'a pas besoin alors de performances spirituelles, de faire des plus belles prières que notre voisin. On n'a pas besoin de briller par son engagement, par ses actes, par mille choses que l'on ferait pour être plus que l'autre. Mais simplement cet esprit-là vient me dire au fond de moi-même, tu as Dieu pour Père et tu appartiens à son peuple. Arrêtons-nous un instant. Laissons cette voix résonner en nous, tellement bienfaisante. Cette voix qui me dit, tu as Dieu pour Père. Tu fais partie de son peuple. Le texte se poursuit, je vais le continuer. Je me suis arrêté au verset. Quel verset je me suis arrêté? 17, c'est bien. Il y a une personne qui suit. J'estime, verset 18 donc, parce qu'après le 17, c'est le 18, jusqu'au verset 22. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas, je vais aller jusqu'au verset 30, je vous préviens, ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. C'est la gloire maintenant qui va être le fil conducteur. Verset 19. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Car la création est tombée sous le pouvoir des forces qui ne mènent à rien, non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais à cause de celui qui l'y a mise. Il y a toutefois une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. En comparant la situation à venir telle que nous pouvons la découvrir en bribes sous la plume de l'apôtre Paul, avec la situation d'aujourd'hui, l'apôtre Paul se dit « bon, oh les cœurs, les braves, tenons le coup, ça sera mieux après. » Le verset 23, « Ce n'est pas seulement la création qui souffre, nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons que Dieu nous a promis, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants. » Je croyais qu'on l'était déjà au fait. Oui, mais alors ce sera pleinement manifesté. Là, pour l'instant, ce n'est pas très visible. Demain matin, ce ne sera pas écrit sur votre front « Je suis enfant de Dieu ». Voilà. L'Esprit nous apprend à attendre, à être patient. C'est ce que nous appelons l'espérance. L'espérance, c'est que j'appartiens au peuple de Dieu aujourd'hui. Ça ne se voit pas trop, sauf peut-être ce matin, c'est sympa, on est ensemble. Et puis, demain, on va disperser, on aura chacun ses défis à relever. Bon, résumons le résumé. Enfant de Dieu, c'est-à-dire héritier de Dieu, alors patience, ça va être bien, c'est sûr, même si aujourd'hui, on en bave. C'est difficile. Oui, aujourd'hui, nous subissons notre faiblesse humaine, mais l'Esprit est là et nous sommes en sécurité. Eh bien, poursuivons la lecture au verset 26 et 27. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Si, on a quand même bien prié tout à l'heure, hein, c'était quand même bien le petit moment de prière. Hein. Mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des gémissements qu'aucune parole n'est capable d'exprimer. Est-ce qu'il a déjà été annoncé le sujet des groupes de maison pour l'année prochaine? Oui, j'ai le droit d'en parler alors. D'accord. La prière par l'Esprit sera un des thèmes que nous aborderons à l'année qui vient. Là, vous avez cette... Qu'est-ce que ça veut dire? Me voilà doux avec mes questions. L'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des gémissements qu'aucune parole n'est capable d'exprimer. Alors, dimanche prochain, tout le monde va gémir. Là. Je ne comprends pas ce texte. Et pourtant, il y a des moments où je n'ai pas besoin de parler devant mon Dieu. Je suis en train d'être... Je suis là et il n'y a pas de mots. Et pourtant, je suis en prière avec lui. Est-ce que ce n'est pas ça que je suis en train de mettre en pratique, ce verset? Peut-être. Ce savoir compris de Dieu. Un lien avec Dieu, pour finir cette lecture, compris de Dieu, appeler Dieu pour Père, c'est quelque chose qui est offert, qui est donné par le Saint-Esprit. Alors, maintenant, on va résumer le tout. Je ne sais pas ce qui m'a pris à faire des résumés, ça doit être des relents de mes cours de français de la classe de première qui remontent à quelques bonnes années. Nous sommes guidés par l'esprit de vie plutôt que par nos penchants humains et néfastes. En nous, l'esprit est le garant de l'éternité. Nous gagnons à ce qu'il inspire notre conduite et nous garde de nous-mêmes. Et il nous guide non comme des esclaves craintifs, mais comme des enfants de Dieu. Nous sommes bien héritiers de Dieu. Quelle espérance! Alors même si nous ressentons notre faiblesse, l'Esprit nous met dès maintenant en sécurité. Verset 28. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelés selon son projet, car Dieu les a choisis d'avance. Oui, alors, Dieu les a choisis d'avance. Là, nous touchons un point de théologie auquel je ne toucherai pas moi. Hein, est-ce que c'est Dieu qui nous choisit ou est-ce que c'est nous qui choisissons Dieu? Moi, je dis les deux en même temps et je laisse Matthieu, dimanche prochain, régler cette question. T'es à ton sujet pour dimanche prochain, Matthieu, c'est bien. Alors, je vais reprendre la lecture. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères et de sœurs. Ceux et celles pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Ceux et celles qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Ceux et celles qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Et je termine ce texte avec le mot « gloire » par lequel je l'ai commencé, puisqu'il était question de la gloire que Dieu révélera, qui sera tellement plus grande que les souffrances d'aujourd'hui. Alors on a le résumé. Est-ce que tu vis vraiment ces choses-là? Est-ce que je les vis? On n'a toujours pas compris les mécanismes, la magie, la force spirituelle par laquelle l'Esprit Saint déjà est en chacun de nous et agit comme ça. Mais est-ce qu'on a compris ce que Paul explique là? Est-ce qu'on le vit? Comme je disais tout à l'heure, moi j'utilise des tas de moteurs électriques sans savoir comment ça fonctionne. Alors je peux très bien vivre la vie de l'Esprit sans que ma théologie du Saint-Esprit soit très très précise. Ce qui est important déjà, c'est ce que j'ai compris, ce que Paul explique ici dans ce texte. J'essaye de le vivre. De prendre des temps de disponibilité par rapport à cette course quotidienne que nous avons. Et alors, comme j'aime bien les résumés, j'ai résumé le résumé. Voilà. Je tourne la page. L'Esprit Saint nous guide et nous garde de nous-mêmes. Et cela pour toujours. Pas de crainte. Malgré notre faiblesse, il nous dit que nous sommes enfants de Dieu et nous met en sécurité face à l'avenir. Et vous savez quoi? J'ai résumé le résumé du résumé. Clac! Ça ne marche pas. Voilà. L'Esprit Saint vient habiter notre faiblesse et nous guide pour la vie. Pas de crainte, nous sommes enfants de Dieu. Je vous propose simplement de garder ce résumé en mémoire et d'essayer de le mettre en pratique cette semaine. Amen.